Fils et du Saint-Esprit. Alors, bien chers frères et bien chers amis, c'est pas tout à fait un évangile de vacances ou de repos, puisque mais c'est la liturgie qui le veut ainsi. C'est, vous l'avez bien compris, la lutte contre l'idolâtrie et en face du vrai culte de Dieu. Voilà, c'est une question qui se pose au Christ, à notre Seigneur, et évidemment qui nous est adressée de plein fouet, car c'est une question qui s'est posée de tous les temps, dans l'Ancien Testament, aux peuples impies d'ailleurs, comme aux Juifs, et puis il se pose à nous de la même façon, c'est est-ce que nous adorons vraiment Dieu, ou est-ce que, in fine, nous nous adorons nous-mêmes, puisque l'idolâtrie, qui est le fait de rendre un culte, c'est-à-dire, c'est pas la vénération, hein. On peut vénérer ses ancêtres, c'est une question qui s'est posée dans l'Église, ben oui, on peut vénérer ses ancêtres, on peut vénérer même des lieux, la colline de Sion, par exemple, même le monument Barès, pourquoi pas. Bref, on peut vénérer plein de choses, humaines ou plus divines, mais on ne peut rendre un culte qu'à Dieu, un culte de l'atrie, c'est-à-dire une adoration, c'est-à-dire considérer que là est tout et que je ne suis rien. Ça ne peut être qu'à Dieu. Car dans une idolâtrie, en fait, c'est moi-même qui considère les choses qui doivent être vénérées, c'est donc encore un peu moi. Voilà pourquoi on ne peut pas concilier l'idolâtrie avec le culte de Dieu, car à ce moment-là, c'est mettre quelque chose d'en dessous de Dieu comme Dieu, et en fait, c'est moi-même. Alors, un point sur la lutte contre l'idolâtrie et un point sur le culte du vrai Dieu. La lutte contre l'idolâtrie, elle est difficile parce qu'elle est de tous les niveaux et en fait elle est de toujours. Et quand je dis de toujours, je l'ai dit dans le temps, mais elle est de toujours dans notre propre vie. Il ne suffit pas une fois pour toutes de s'être dit « bon ben moi ça y est c'est bon, j'adore le vrai Dieu, alors je suis sorti d'affaire ». C'est pas ça. Car l'idolâtrie, elle est des trois degrés de concupiscence, hein, la chair, l'esprit et l'âme. C'est-à-dire, je prends trois exemples très simples, l'idolâtrie charnelle, c'est le Seigneur qui le dit, ils ont fait, et c'est ici ce que saint Paul évoque, hein, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et il se lève pour se divertir. Il y a déjà les deux niveaux de l'idolâtrie, ou en tout cas c'est déjà au moins le premier, c'est l'idolâtrie de la chair. Hein, c'est leur Dieu, c'est leur ventre, dit saint Paul ailleurs. Et donc voilà, et bien, il y a des manières de pécher par gourmandise notamment, qui sont une idolâtrie. On pense toujours à la gourmandise se goinfrer, mais il y a bien d'autres manières de pécher par gourmandise, notamment par exemple, si vous choisissiez d'être invité par tel ou tel ami en fonction de la table, c'est un péché par gourmandise. C'est-à-dire que vous allez chez vos amis parce que ce sont vos amis, après, si c'est bon, c'est bon, c'est pas un péché, mais si c'est moins bon, c'est moins bon, c'est la vie. Et donc, c'est un exemple au hasard. Et voilà, c'est très parlant. Bon, l'exemple, c'est de ne pas faire de notre concupiscence charnelle, et je prends la gourmandise parce que c'est la plus facile à évoquer, mais c'est très simple, c'est ça qui devient mon Dieu, c'est-à-dire ce qui me gouverne, hein, parce que c'est ça en fait, hein, c'est bien beau dire Dieu, tout ça, mais Dieu c'est ce qui suppose que ma vie est déterminée. Et donc, si c'est mon ventre, ben voilà, je vais agir en fonction uniquement de mon ventre. Je vais agir et c'est lui qui va digérer, oui, mais diriger, non. Voilà. L'idolâtrie... déjà plus dangereuse, c'est l'idolâtrie intellectuelle, c'est l'idolâtrie, là franchement, qui est de moi-même également, qui est d'idolâtrer quelque chose que j'estime être de ma puissance. Eh bien, ce sont toutes les idéologies. Là, c'est pas compliqué à comprendre. C'est de penser que l'idée que j'ai sur quelque chose, c'est ça qui doit prévaloir, c'est ça qui doit diriger. C'est toujours la même question. Et donc, et c'est pas Dieu et la révélation et les principes que l'Église m'enseigne. Voilà. Moi, j'ai compris que. Alors, ça va des idolâtries, des idéologies les plus grossières, du communisme au fascisme, en passant par le laïcisme de la franc-maçonnerie, en arrivant jusque à certaines plus subtiles et plus spirituelles, présentes parfois dans l'Église, que sont un certain gnosticisme, une gnose de fait des gens qui savent des choses et alors qui décident que c'est ça qui va gouverner et pas ce que l'Église leur enseigne. Voilà. Et puis, danger des dangers, il y a l'idolâtrie supérieure, c'est l'idolâtrie spirituelle. Et ça, c'est évidemment, j'espère, celle qui nous guette surtout, parce que c'est d'abord celle qui suppose un intérêt spécial pour Dieu, mais qui est un véritable fléau, c'est de penser que l'idée que j'ai de Dieu, c'est Dieu. Voilà. Et alors ça, c'est très compliqué et subtil, parce que si ce que je sais de Dieu est vrai, eh bien, il n'en est pas moins que je ne peux pas terminer la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi la connaissance de Dieu est toujours une recherche, une avancée vers l'inconnu, une avancée vers l'infini, parce que par définition, si j'ai déjà saisi Dieu dans son ensemble, dans ma petite tête, ben, il y a des chances pour que ça ne soit pas Dieu, en tout cas que ça ne soit pas la totalité de Dieu. Voilà pourquoi il est dangereux de terminer les choses. Le credo que nous avons n'est pas une terminaison de Dieu, c'est une saisie que Dieu nous a donnée de lui-même dans la tradition de l'Église pour que nous ne nous égarions pas. Ce sont des remparts, le credo, c'est comme des remparts. C'est pas dire, ça y est, on sait tout de Dieu, maintenant c'est fini. J'espère bien que nous ne savons pas tout de Dieu, d'ailleurs j'en suis même persuadé. Et donc, quand nous arriverons au ciel, nous verrons Dieu face à face, nous aurons toute la connaissance que nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui. Maintenant, ça c'était pour déterminer dans mon premier point quels étaient les types d'idolâtrie. Maintenant, comment on fait pour les extirper? C'est très simple, on fait comme fait le Seigneur, n'est-ce pas? Plus exactement, il y a deux manières d'extirper l'idolâtrie, ou comme tout péché, la manière négative et la manière positive. La manière négative, c'est la manière qu'utilise le Seigneur ici, il prend un fouet, il renverse les tables, il fout tout le monde dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé le culte de Dieu, en fait, en un culte humain, qui en soi n'est pas mauvais. Le fait de vendre les colombes, des colombes, etc., c'est prescrit dans la loi de Moïse, donc c'est pas mal en soi. Mais le problème, c'est le Seigneur a bien vu que c'était devenu leur but. C'était devenu, vous voyez, c'est comme dans une famille, comme dans l'Église d'ailleurs, qu'est-ce qui compte? C'est qu'on arrive au ciel, ou est-ce que c'est le fonctionnement de ce qu'on a décidé qu'on allait faire? Voilà. C'est ce qu'on appelle le fonctionnarisme dans l'Église, mais dans une famille, ça peut tout à fait arriver aussi. Je dis, voilà. L'essentiel, c'est que ça marche bien. Non. L'essentiel, c'est pas que ça marche bien. L'essentiel, c'est que nous arrivions au ciel. Et que donc, pour ce faire, c'est bien que ça marche bien. Mais il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Vous voyez, donc, là, le Seigneur prend les grands moyens, si j'ose dire, et il fout tout le monde dehors à grands coups de fouet, ça s'appelle une sainte colère. Nous aussi, je vous conseille cette méthode plutôt pour ce qui est extérieur, parce que pour les choses intérieures, il vaut mieux être un peu plus doux, parce qu'on ne change pas une âme aussi facilement. Je vais prendre un exemple très simple. Si c'est Internet qui est source de péché, ça n'arrive pas, mais ça peut arriver, c'est très simple, il suffit de débrancher la prise. Bon, alors, je sais bien qu'il y a du Wi-Fi, donc on peut... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Il suffit de couper Internet après 21h ou 22h, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est très simple. Voilà. Pour ce qui est extérieur, on peut être assez violent. Il faut se défendre des choses. Maintenant, pour ce qui est le combat positif, qui évidemment est le meilleur, c'est d'établir le bien. Car... En fait, ce que fait le Seigneur en mettant tout le monde dehors, c'est qu'il est en train de purifier le temple. Or, le temple, c'est son corps. Voilà pourquoi il avait besoin que ce temple fût purifié avant de le remplacer, afin que la figure soit propre pour devenir la réalité. C'était mon premier point, c'était le plus long, mais je vous dirai un petit point sur maintenant le véritable culte de Dieu. C'est plus compliqué, évidemment, car il est toujours plus simple de se battre contre le mal que d'établir le bien. Pourtant, c'est plus efficace. Le culte de Dieu, il nous est donné, tout simplement, c'est de l'adorer vraiment. C'est-à-dire, c'est toujours la même question, qu'est-ce qui gouverne en moi? Je vais en vacances, qu'est-ce qui gouverne? Est-ce que c'est d'abord mon programme des Bahamas? Puis, éventuellement, s'il y avait un prêtre en vacances ici, j'irai ouïr à la Sainte Messe, sinon, tant pis. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut pouvoir se consacrer à Dieu. Les religieux qui font une consécration au sens plein et entier du terme, canonique, c'est que toute leur vie n'est que offrande à Dieu. Consécration, une consécration, c'est perdre une chose pour le donner à Dieu et pour le rendre sacré uniquement. Sont pour nous un exemple. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que nous sommes appelés à vivre, même pas moi, et encore moins vous. Mais c'est pour nous l'exemple permanent que ce qui compte, c'est la consécration. C'est que tout soit ordonné à Dieu, soit donné à Dieu. Et voilà pourquoi il nous est donné des religieux, des bénédictins, évidemment, mais de toutes sortes de religieux, qui se consacrent, qui perdent tout dans ce monde pour gagner Dieu. Et nous les avons devant les yeux, nous qui sommes dans le monde, prêtres séculiers ou laïcs, a fortiori, eh bien, dans le monde, hein, et c'est plus compliqué en quelque sorte, notre combat se répète sans cesse, nos choix se répètent sans cesse, mais nous avons devant les yeux cette consécration, eh bien, je vous conseille de vous consacrer. Moi, je suis consacré par l'onction, dans le ministère qui est le mien, mais je vous conseille de vous consacrer intérieurement à Dieu, dans votre famille, bien entendu, essentiellement, et pour que vous puissiez vous offrir vraiment comme un culte spirituel, le dit saint Paul encore, vous offrir tout entier au Seigneur. Voilà comment nous pouvons rendre un culte à Dieu, et enfin en priant tout simplement, en consacrant d'un point de vue pratique un petit temps au bon Dieu de temps en temps, car ce que nous voulons lui donner c'est tout, mais voilà, c'est comme la force centrifuge, ça échappe. Parce que on fait plein de choses, on tourne d'ailleurs souvent en rond, et donc on s'égare. Eh bien, il nous faut nous ramener au centre de notre vie, c'est dans la prière, le rempart de la foi, le rempart de notre vie, c'est la prière. Que nous soyons moines, prêtres ou laïcs, c'est strictement la même chose. Si vous ne consacrez plus un temps à la prière, vous serez forcément en proie à vous-même et donc à une quelconque idolâtrie. C'est mon dernier conseil, ou c'est mon seul conseil d'ailleurs plutôt, après ces évocations, c'est de reconsacrer sans cesse, parce qu'on en a besoin, sans cesse de reconsacrer un moment à Dieu, un moment perdu en un sens humain, c'est-à-dire un moment où on ne fera pas ni la vaisselle, ni la bouffe, ni les copies, ni je ne sais pas quoi, ni enfin tout ce qu'on a à faire, les comptes, bref, qu'on consacrera à Dieu, et à partir de là, on va pouvoir reconstruire notre âme, donner à Dieu, consacrer à Dieu pour lui. C'est ainsi que nous ne serons pas idolâtres seulement à cette condition et que nous pourrons louer Dieu éternellement.